RMC, 23h minuit, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour. RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
Tour de France qui a donc pris son envol ce matin, son envol de Porto Vecchio au sud de l'île de Beauté, direction Bastia, au nord de l'île de Beauté pour la première étape, 213 km. Oh, il ne s'est pas passé grand chose, en tous les cas, pendant 200 km, car les dernières bornes de cette première étape ont été très mouvementées. On va évidemment en reparler dans quelques instants avec Cyril Guimard, Thierry Bourguignon et Luc Leblanc, et vous également au 32-16. N'hésitez pas à venir nous donner votre avis, les thèmes des débats, l'organisation est-elle bien gérée cette situation d'urgence. On verra également dans quel état se trouve Alberto Contador qui a été victime de la chute tout à l'heure. Il est touché à l'épaule, nous dit-on. Et puis on se demandera si Marcel Kittel sera toujours en jaune demain soir. Lui qui a fait coup double, coup triple, coup quadruple aujourd'hui en décrochant la victoire d'étape, le maillot jaune, le maillot vert et le maillot blanc de meilleur jeune. Mais avant cela...
RMC, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour.
C'est terrible ce qui est en train de se passer à l'avant du peloton. On est à 18 km de l'arrivée. Il y a eu un terrible coup de feu tout à l'heure à un peu moins de 30 km de l'arrivée et la course est totalement neutralisée. Ce sont des rangées de coureurs qui occupent toute la route. On doit rouler à 40-45 km/h. N'importe quel cyclo-sportif pourrait presque suivre l'allure du peloton. On est à 18 km de l'arrivée de la première étape du 100e Tour de France. Il n'y a aucune course. Aucune course alors qu'il y aurait... Lorsqu'on est assez frais sur une première étape d'un grand tour, il y aurait largement de quoi faire. Qu'est-ce qui neutralise, qu'est-ce qui paralyse les coureurs?
Équipes de sprinteurs qui sont en train de regarder. Ben oui, les équipes de sprinteurs se disent quelle est l'équipe qui va emmener son leader.
Il n'y a pas de course, Fred,
parce que tout le monde se regarde.
Fred, de toute façon, même si t'es costaud, tu peux sortir là. Mais sur un parcours comme ça, rien.
Tu vas te faire reprendre.
Eh oui,
on s'en fout.
C'est pour sortir.
Attention,
Fred, je suis d'accord avec toi, il faut de l'intensité, il faut du sport, mais le sport c'est 3 semaines, on est sur une course de 3 semaines et il faut se limiter.
Mais moi je pense aux enfants, aux jeunes qui regardent la télé en ce moment,
Fred, là, t'exagères
qui nous écoutent. Il n'y a pas de course dans n'importe quelle course de cadets, de minimes, en FFC, en UFOLEP, en FSGT. Les coureurs mettent des coups de pétard et on les comprend. C'est ça faire la course
de
vélo.
Je suis d'accord, mais là les équipes de sprinter ne veulent pas prendre le risque d'emmener leur leader maintenant parce que c'est trop loin de l'arrivée.
C'est vrai,
et ils risquent de manquer des coureurs pour amener leurs sprinteurs pour la victoire d'étape, c'est tout.
C'est quand même dommage, et Cyril, je pense que tu vas partager notre analyse, que une étape de Tour de France se résume à 3 minutes de spectacle par jour. C'est quand même, en tous les cas sur les étapes de plaine, les 3 dernières minutes de la course, c'est quand même un peu dommage. Non, c'est quoi? C'est encore à cause des oreillettes tout ça?
Non, là vous êtes tous en train de me faire rigoler là.
Là ils sont en train de péter un câble, Cyril.
Je crois, oui. Non, mais il y a eu un gros coup de fusil qui a fait peur à tout le monde, et derrière ce coup de fusil, on se dit oh là, restons bien groupés devant. On a les arrivées, alors que oui, on a un petit problème, excusez-moi, sur la ligne d'arrivée il y a un quart d'une équipe qui vient tout simplement d'accrocher la ligne d'arrivée,
l'arche de la ligne d'arrivée. Un détail, mais ils vont pas avoir de problème pour freiner, ils vont pas rentrer dans la ligne d'arrivée à la vitesse
Fred,
à laquelle ils roulent, hein.
Fred, c'est peut-être pour ça, c'est ce qui explique la lenteur du peloton, parce qu'on leur a dit que l'arche était tombée.
Évidemment pas.
Il va falloir aller très vite pour débarrasser la ligne d'arrivée.
Personnellement, et là j'en appelle à l'expertise de Cyril Guimard, on est à 16 km de l'arrivée, il n'y a aucune course, le peloton occupe l'intégralité, la totalité, la largeur de la route. Je n'ai jamais vu ça, jamais, sur une étape du Tour.
Ah, il est énervé.
Vous nous l'avez énervé, c'est pas possible.
C'est pas moi qui l'ai énervé.
Cyril, 16 km de l'arrivée, pas de course.
Parce qu'il n'y a plus d'échappée, parce qu'il y a eu ce coup de fusil qui a fait peur à tout le monde.
Il n'y a pas l'échappée, comme disait.
Et donc maintenant, personne ne veut prendre la responsabilité de relancer la course tant que ça reste comme ça. Mais je peux vous dire que c'est quand même très nerveux, et rien ne dit d'ailleurs actuellement qu'on n'est pas tout simplement un petit vent de face, parce que le vent a tourné ici sur la ligne d'arrivée, il a tourné pratiquement de 30 degrés.
On commence à s'organiser, les équipes se regroupent autour de leur sprinter ou de leur leader respectif, Et effectivement, on atteint enfin les 45-50 km/h. À mon avis, on va confirmer ça avec Georges.
Exactement. Georges Quirino sur la moto RMC.
Eh bien, on va de passer à l'instant les 200 km de course. Effectivement, eh bien, ils sont juste derrière nous, les membres de ce peloton qui, comme le disait Fred, prennent toute la largeur de la route de ces deux files. Et on voit pour l'instant, eh bien, des coureurs de l'équipe BMC, notamment sur la droite, qui sont présents. Plusieurs coureurs de l'équipe Orica, Green Edge. Il y a vraiment un petit peu de tout le monde là à l'avant de ce peloton. On a du mal à distinguer qui prend vraiment les rênes. On voit les Omega Pharma Quickstep qui sont également sur la gauche du peloton, alors que Radio Tour nous annonce une chute dans
chute à l'arrière.
Sky notamment.
Et là, c'est une chute qui est intervenue, on va dire, en queue de peloton qui ne concerne aucun favori, aucun sprinter. Ce sont des seconds couteaux. Rien n'a signalé de majeur dans cet incident et surtout pas de blessés a priori, même si un coureur de l'équipe Sojasun reste au sol. On va tâcher de vous tenir au courant. Attention, Ryder Ejedal, le Canadien leader de l'équipe Garmin, est attardé. Il devrait pouvoir rentrer. Il n'a pas mis longtemps à se relever. Le Canadien, ancien vainqueur du Tour d'Italie, est attendu par un équipier.
Alors, il se passe des choses également sur la ligne d'arrivée. On va tout de suite retrouver Pierre-Yves Leroux, notre Tintin reporter, qui est avec sa petite liaison à chef. Tout à l'heure, Cyril nous a dit en direct qu'il y avait eu un petit incident.
Non, c'est un gros incident.
Pierre-Yves, que s'est-il passé? Que
Christophe,
peux-tu nous dire?
C'est tout simple, car de l'équipe Orica Green Edge, le bus est passé sous l'arche de la ligne d'arrivée et il s'est accroché à cette arche, en fait, au-dessus de l'arche, et il est bloqué actuellement sous l'arche. Donc il y a vraiment là beaucoup d'inquiétude au niveau de la ligne pour réussir à ressortir ce bus, parce qu'il reste très peu de kilomètres maintenant. Je sais pas combien.
10 km.
Ouais, bien, ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué, parce que si le bus recule, il se peut que l'arche s'écroule. C'est une arche solide, hein, c'est pas quelque chose qu'on gonfle. Donc là, il y a beaucoup d'inquiétude chez les organisateurs. Tout le monde est en train de se précipiter. Et vous savez, ces hommes de la structure Doublet qui s'occupent de toutes les installations techniques ici sont en train de voir comment ils vont pouvoir réussir à sortir le bus. Mais je ne sais pas si Cyril, de sa cabine, voit ce qui se passe.
Je vois tout.
C'est assez incroyable. Hein, oui. C'est la première fois qu'on voit ça.
Il reste 10 minutes pour sortir le car.
Ah, c'est pas gagné. Hein.
C'est pas gagné parce que derrière, il faut savoir que sous l'arche, vous avez toute la partie électronique pour juger l'arrivée, et que tout ça est en équilibre très inconfortable.
Voilà, c'est très précaire. On nous a demandé d'éloigner
d'ailleurs
un petit peu la
je
zone.
Pense qu'on revient vers on remonte maintenant vers la flamme rouge. Je ne suis pas certain que l'arrivée puisse avoir lieu.
Non, c'est pas certain du tout.
Le 100e Tour de France démarre sur les chapeaux de roue. Le bus Orica Green Edge est effectivement tanké, comme disent les coureurs, tanké sur la ligne.
Allez, on est à 10 km de l'arrivée.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
Morceau de jingle.
Ah bah oui, ça rigole pas. Nous avons la flamme rouge et maintenant nous avons le jingle des 10 derniers kilomètres. Mais le suspense peut-être n'est pas de savoir qui va emporter cette première étape du Tour de France, mais si seulement cette première étape du Tour de France va pouvoir être jugée dans quelques instants.
C'est pour ça que décision, peut-être les coureurs ont ralenti.
Décision des commissaires à l'instant, semble-t-il. L'arrivée sera jugée à 3 kilomètres de l'arrivée initialement prévue. On sera bel et bien dans Bastia, mais on n'aura pas à effectuer le demi-tour.
Il va falloir prévenir les coureurs quand même, de leur dire que c'est...
Et merci les oreillettes.
Oui, tu vois que ça sert à quelque chose, Cyril, les oreillettes.
Une grande première.
Ah, ça, c'est du jamais vu.
On en a vu des arrivées modifiées pour...
Maudite comme aujourd'hui, jamais.
De l'arrivée, la zone d'arrivée étant bloquée par un bus.
Voilà, vous venez d'entendre Jean-François Pécheux, le directeur de l'épreuve, qui vient donc de nous dire que nous n'étions plus qu'à 3 km de l'arrivée.
Donc les consignes sont passées au directeur sportif, on explique aux auditeurs. Les ordres de Jean-François Pécheux, le directeur de course, sont arrivés dans les voitures des directeurs sportifs des coureurs, qui eux, via les oreillettes, relaient l'information à leurs coureurs. Nous ne sommes donc plus à 8,5 km de l'arrivée, mais bien à 5,5 km. Pendant ce temps-là, il y en a qui doivent être bien occupés à gonfler une arche pour...
Oui, et puis il va falloir envoyer les chronométreurs, il va falloir envoyer les photos finish là-bas, parce que...
Il y a un chronométrage aux 3 km.
Il y a un chronométrage, il y a un chronométrage aux 3 km.
Et oui,
d'accord.
C'est bien pour ça qu'on a décalé le...
À cet endroit-là.
C'est parce que réglementairement, si une chute intervient dans les trois derniers kilomètres ou un incident, le débours n'est pas pris en compte. Il y a donc un chronométrage aux 3 kilomètres.
Très bien, c'est du jamais vu, c'est de l'inédit sur la route du Tour de France. Il a fallu attendre quand même le 100e Tour de France pour voir ça. Et la visite pour la première fois de l'île de Beauté, la Corse, pour assister donc à cette première, à savoir l'arrivée n'aura pas lieu sous la ligne d'arrivée, mais plus exactement 3 kilomètres avant, car un bus a accroché l'arche d'arrivée et il est bloqué en plein milieu de la ligne d'arrivée. Donc pour les spectateurs qui sont là, qui poirotent depuis ce matin, c'est super sympa.
Ils regarderont sur le grand écran.
Sur le grand écran. Alors du coup, on va se préparer au sprint et puis on va essayer d'avancer la flamme rouge. Nous aussi, il faut tout qu'on organise.
Hein. Ah mais attention, moi j'avais donné le cave, mais
ça sent bon, ça sent bon pour Peter Sagan du coup, l'acrobate slovaque de la formation Cannondale qui fait rouler ses hommes à l'avant du peloton. On est à moins de 3 km de l'arrivée. Du coup maintenant, il y a les Cannondale, maillot vert fluo, les Orica Green Edge, responsables quelque part via la hauteur de leur bus de ce changement de ligne d'arrivée, puisqu'on vous le rappelle, un bus est coincé sous la ligne d'arrivée ici à Bastia, arrivé avancé à 3 km du lieu initial. Les Omega Pharma de Mark Cavendish emmènent pour l'instant de main de maître leur sprinter maison. Ils sont au grand complet. Voici les trois équipes qui mènent le peloton à 3 km de l'arrivée. Vraisemblablement, on n'est plus à quelques hectomètres près aujourd'hui.
Alors que le bus, lui, est toujours coincé. J'espère qu'ils vont le décoincer d'ici demain quand même, parce que autrement, ça va être difficile. Je sais pas où est passé le chauffeur.
Le chauffeur est à l'intérieur. Il est confus. Il est confus.
Et à mon avis, il s'est enfermé.
Il y en a qui lui jettent des pierres. Non, c'est pas vrai. Allez, on va se concentrer donc maintenant sur le sprint final. Georges Quirino, la moteur MC. Non, elle n'est pas sur place. On le retrouvera tout à l'heure. Fred, on est donc à quelques hectomètres maintenant de l'arrivée. Ah, ça y est. Georges est sur place. Sur la nouvelle ligne d'arrivée, Georges, raconte-nous, ça ressemble à quoi? Est-ce que tout le monde s'affaire là aussi à 3 km?
Eh ben écoute, on va le découvrir en direct. On a passé la flamme rouge et la différence par rapport à une arrivée habituelle, la flamme rouge qui est à 4 km. Hein, du coup, eh bien c'est que du coup tout n'est pas barriéré, c'est-à-dire que le public la route, donc ce sera peut-être un petit peu dangereux dans quelques instants pour ce qui sera la ligne d'arrivée. Voilà, on se le fait en direct sur RMC. Ouais, ouais. On va ressembler la ligne. Voilà, on la voit, elle est dans 100 mètres. La ligne d'arrivée à 3 km. C'est là, il y a un rétrécissement juste avant la ligne d'arrivée. Oula, on passe sur une voie. Mais à quoi ça va ressembler dans quelques instants? On passe actuellement. Voilà.
On prend des risques là, la direction du tour prend des risques.
Ça descend, c'est un rond-point, rétrécissement. Il y a un gros virage à gauche. Alors je sais pas si ce sera ça l'arrivée, mais ça ressemble à rien du tout.
C'est une arrivée Gymkhana.
Très dangereux.
Une arrivée. Ouais,
alors qu'ils ont débloqué le bus. Ils ont débloqué le bus. Donc peut-être vont-ils changer à nouveau leur fusil d'épaule.
Parce que ici c'est pas possible.
Ici c'est pas possible.
C'est en plein virage. Je sais pas comment ils vont faire.
Alors que va décider Jean-François Péchaud? On est à l'écoute évidemment de Radio Tour, la direction sportive de ce Tour de France, qui va annoncer.
Ah, nouvelle chute.
Énorme chute. Énorme chute sur le côté gauche de la route. Fred, et là il y a du monde car on était dans le premier tiers de peloton.
Oui, tout à l'avant du peloton. Nasser Bouhanni, l'ancien champion de France, qui était la principale chance de l'équipe de Marc Madiot, qui a été pris dans une chute, notamment avec plusieurs coureurs de l'équipe Omega Pharma qui emmenait Mark Cavendish, Peter Sagan, qui était le grand favori en cas d'arrivée biscornue. Arrivé Gymkhana est au sol, il se relève, maillot totalement déchiré. Est-ce que Mark Cavendish va être capable de jouer la victoire? A priori, il est toujours là. En tout cas, les Omega Pharma sont toujours organisés. Le maillot de champion d'Allemagne d'André Greipel est-il encore là? Difficile de le voir. J'ai l'impression que les principaux favoris ont été tous attardés par cette chute ou ont été pris.
Il y a Cavendish devant. Hein.
Cavendish est passé entre les mailles.
Kittel aussi.
Peter Sagan s'est relevé, mais ne remportera pas.
Où va avoir lieu l'arrivée? C'est le suspense évidemment ici. Soit aux 3 km, mais Georges nous l'a dit, c'est quand même assez compliqué avec un rétrécissement juste avant le passage sur la ligne. Soit désormais sur la ligne d'arrivée initiale, puisque le bus de Greenwich a pu être dégagé et que donc on peut juger l'arrivée là-bas, mais on n'a pas
La décision a été prise par la direction de course de faire l'arrivée à 3 km.
Pierre-Yves, justement, sur la ligne d'arrivée, Pierre-Yves Leroux, est-ce que tu as des informations concernant l'arrivée?
Alors ici, en tout cas, on est en position pour l'arrivée. On nous a demandé de nous mettre en place, mais il semblerait effectivement, on m'a fait un petit signe là, du côté d'ASO avec un nom, l'air de dire ça n'aura pas lieu ici. On va demander à Florent, l'arrivée est à 3 km, c'est ça? Pour l'instant, il peut pas s'exprimer.
Ouais. Mais Georges Quirino nous dit que non, l'arrivée aurait lieu sur la ligne.
Crevaison d'André Greipel, le principal adversaire de Mark Cavendish. C'est la zizanie à la fin.
Un dérailleur.
En tout cas,
c'est vélo.
C'est râpé pour la victoire d'étape. Hein,
en tout cas, on est en position, Christophe.
Conséquence de la chute,
derrière la ligne, avec le pool photographe, etc. Donc, je pense que ça peut avoir lieu ici. On n'a pas la confirmation.
On vient de passer les trois derniers kilomètres.
C'est confirmé.
On arrive sur la ligne.
Jean-François Pécheux, le directeur de course, vient de modifier ses instructions. On est passé à 3 km de l'arrivée et puisque le bus de l'équipe Auriga Greenedge a pu se décrocher de la ligne d'arrivée, eh bien elle aura bien lieu à l'endroit initialement prévu. On est à 2 km 600 de l'arrivée. Mark Cavendish a, semble-t-il, un boulevard pour remporter la 24e étape du Tour de sa carrière et endosser pour la première fois de sa vie le maillot jaune du Tour.
Voilà, Mark Cavendish qui est l'un des seuls sprinteurs rescapés de l'énorme chute qui a donc mis au tapis tout à l'heure plusieurs leaders et notamment, on le rappelle, Nasser Bouhanni, le sprinter français de la FDJ. À noter également André Greipel qui a été victime d'un incident mécanique et qui est obligé d'attendre sa voiture et
Peter Sagan
blessé également. On fera évidemment le point tout à l'heure sur les blessés, sur les bobos. En tous les cas, on se rapproche de la ligne d'arrivée, la flamme rouge dans quelques kilomètres, dans un kilomètre très exactement puisqu'on est à 2 km de l'arrivée.
Ce sont les maillots blancs de la formation hollandaise Argos avec deux sprinteurs maison, Marcel Kittel l'allemand et son compatriote John Degenkolb. Ces deux-là ont fait sonner la cavalerie pour rivaliser avec Mark Cavendish et pourquoi pas surprendre le sprinteur britannique de l'équipe Omega Pharma. On aperçoit également les vacances soleil qui mènent sur la droite de la route, les coureurs de Stéphane Lo, l'équipe Sojasun. On n'aperçoit plus de coureurs Omega Pharma pour emmener Mark Cavendish. Pas sûr que Cavendish soit dans un état optimal pour disputer cette arrivée totalement ubuesque. On est sur le bord de mer et les Omega Pharma ont repris.
Terpstra vient de sortir.
C'est Nicky Terpstra, effectivement, le coureur hollandais, coéquipier de Mark Cavendish, qui accélère fort. Ça veut dire que Cavendish n'est pas en mesure.
Contador retardé. Il est à l'arrière du peloton. Fred, on n'avait pas vu tout à l'heure, mais Alberto Contador a peut-être lui aussi été victime de la chute, ou en tous les cas a été retardé par la chute. En tous les cas, le leader de la formation Saxo, retardé, attendu évidemment par plusieurs de ses coéquipiers. On s'approche de la flamme rouge et Terpstra s'est extrait du peloton. Est-ce qu'il peut jouer un coup tout seul?
Est-ce que Cavendish est là?
Et moi, j'ai pas vraiment vu Mark Cavendish. On a cru voir tout à l'heure son maillot, mais moi, je le vois plus.
Le maillot de champion de Pologne. On rappelle que Cavendish est champion de Grande-Bretagne. Nicky Terpstra qui est à 400 mètres de la ligne d'arrivée maintenant et repris par l'avant-garde du peloton. Ce sont les lotos d'André Greipel qui emmène, mais Greipel n'est plus là. Ce sera peut-être Greg Anderson qui prendra le relais, alors qu'un Omega Pharma vient essayer de seconder son sprinter Mark Cavendish. Alexander Kristoff, le sprinter russe de l'équipe Katusha, est en train d'aller créer la surprise peut-être, mais c'est Marcel Kittel, le sprinter allemand de la formation Argos, qui vient remporter sa première victoire sur le Tour à 22 ans. Marcel Kittel qui était en tout état de cause un favori pour une arrivée massive, c'est bien lui, le solide et massif sprinter allemand qui remporte la première étape de ce 100e Tour de France et endosse le maillot jaune au terme de cette étape
complètement dingue. Le final complètement dingue, on s'est ennuyé vraiment ferme pendant 180 km, mais c'est vrai que les derniers kilomètres nous ont réservé une belle surprise. Et alors là, il y en a un qui,
viens d'en revenir, les gars,
monsieur. Complètement.
L'analyse que j'ai faite hier, à savoir, attends, laisse-moi parler, Thierry. J'ai fait une analyse hier soir dans les paris. J'ai dit que oui, le grand favori aujourd'hui, c'était Mark Cavendish. Mais sur une première étape comme celle d'aujourd'hui, avec un maillot jaune à la clé, un sprinter qui peut prendre le maillot jaune, il peut se passer plein de choses, c'est-à-dire des chutes, un Mark Cavendish qui n'est pas au optimum dès la première étape. On s'en souvient encore l'année dernière. Il a eu du mal. Et là, ça confirme bien ce que j'ai dit, ça confirme bien mon analyse hier. Il y a eu des chutes.
Tous les sprinteurs sont tombés.
Il y a eu des incidents dans le final et ça m'a, Kittel était bien placé, il en a profité, il y avait toute son équipe autour de lui et voilà.
Et voilà, et voilà et Lucho voilà. qui va s'emparer du maillot jaune des leaders des parieurs d'RMC. On va tout de même essayer de voir s'il y a des dégâts. On a vu tout à l'heure que Alberto Contador avait été retardé. Tiens, on va tout de suite retrouver Pierre-Yves Leroux qui se trouve en compagnie de Thibaut Pinot. Pierre-Yves.
Exactement, Thibaut qui est arrivé avec ce premier groupe. Hein. Thibaut, vous avez réussi à échapper à la chute ou un petit peu de retard, pas grand chose.
On prend une cassure dans le peloton, donc on savait qu'il y aurait des chutes et ça frottait vraiment beaucoup. Quoi.
Que Marcel Kittel passe juste à côté de nous, le vainqueur de l'étape. C'était compliqué, notamment sur les derniers kilomètres. C'était votre crainte, évidemment, en cette première étape. On sait que le peloton est un peu nerveux.
Ouais, il est beaucoup nerveux. Et puis, c'est comme ça, c'est les chutes de la partie du tour. Donc là, on perd du temps. On est un peu perdu. On ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, c'est toujours dommage de la courte tour, c'est ça. C'est les cassures, les chutes. Et pour ça, d'en faire un objectif. C'est aléatoire.
On vient de voir Nasser Bouhanni passer à côté. Il était, semble-t-il, pris dans la chute. Il n'a pas l'air trop blessé.
Non, bah, il a roulé avec nous pour le final. Donc,
Est-ce que vous aviez la consigne comme quoi l'arrivée était finalement jugée à 3 km parce que c'est ce qui a été annoncé?
Ouais, on savait, mais bon, on ne savait pas trop. On prend la chute à 4 bornes, donc à 1 km près, ça passe. Et puis, on ne sait pas quel temps ils prennent soit à l'arrivée, soit aux 3 km. Donc, ouais, c'est le merdier, quoi.
RMC, 23h minuit. Toute une journée en une heure. C'est le meilleur du tour, Christophe Cessieux.
Nous sommes donc de retour ici à Bastia, lieu d'arrivée de cette première étape du Tour de France. Première étape également en Corse, vous le savez, pour la 100e édition. Eh bien, le Tour de France a décidé de visiter le dernier département qui n'avait jamais été visité. C'est incroyable, jamais visité par le Tour de France. Eh bien, la Corse fait la fête pendant 3 jours à la Grande Boucle, avec donc cette première étape entre Porto Vecchio et Bastia. Nous sommes avec toute la Dream Team pour discuter de cette première étape qui a connu en fait deux visages. Le visage tranquille de la première partie jusqu'à 15 km de l'arrivée et ensuite le final plus que chaotique dont on va reparler. Ils sont là, de retour, Luc Leblanc. Salut Lucho.
Salut, salut.
Thierry Bourguignon à ma droite.
Salut.
Et le druide, Cyril Guimard pour les intimes.
Bonsoir,
bonsoir Cyril.
Bonsoir, bonsoir.
Alors messieurs, on va tout de suite revenir sur cette incroyable finale de cette première étape du Tour de France. Des images qu'on n'avait jamais vues, c'est une situation inédite. On va rappeler à nos auditeurs ce qui s'est passé. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Cyril, tu es dans ta tribune commentateur quand soudain, boum, on entend un boum. On se demande de quoi il s'agit.
Ça n'était pas une bombe. C'était tout simplement le bus de l'équipe Orica Green Edge, arrivé un petit peu trop tard pour passer sur la ligne d'arrivée, qui a tout simplement accroché le portique d'arrivée, là où il y a tous les outils, tous les appareils pour être pour juger l'arrivée, c'est-à-dire la photo finish et puis les capteurs de les chronos. Donc le problème, c'est que comme tout avait beaucoup bougé de place, on ne pouvait plus déplacer justement le bus. Donc a fallu le baisser, a fallu le dégonfler. Sauf que les coureurs, au moment où ça arrive, eh bien les coureurs venaient de finir leur échauffement de 200 km et entamaient les 13 derniers kilomètres. Il y avait 213 km, donc ils ont fait 200 km d'échauffement. Sauf qu'à ce moment-là, il faut prendre une décision sur la ligne d'arrivée. Et de prendre une décision dans la mesure où pour à l'instant présent on pouvait plus bouger le car, donc on a mis tous les moyens pour et je crois que ça a été bien fait dans le minimum de temps, sauf que les coureurs sont à moins d'un quart d'heure de l'arrivée et qu'il faut prendre une décision.
Oui, parce que tu peux pas arrêter un peloton lancé comme ça, c'est comme un train, il faut du temps pour l'arrêter.
La horde sauvage,
la
peut-être
la horde sauvage. Non mais c'est vrai, un peloton ça s'arrête pas comme ça
moi je veux bien que vous essayiez, vous mettez en face là hein. Vous avez 180 rhinocéros qui arrivent ou sanglier, peut-être que moi je me range. Hein. Ouais. Donc on essaie de faire passer le message auprès des coureurs via les oreillettes. Alors là, ça devient
une cacophonie infernale. Il faut savoir qu'en fin d'étape, lorsque le niveau, le rythme hausse de ton, on n'entend pas grand-chose dans les oreillettes parce qu'il y a beaucoup de bruit dans le peloton.
Bah, il y a beaucoup de bruit et puis surtout, on essaye d'être le plus attentif possible parce que ça frotte énormément. Vous avez tous les sprinters qui se font emmener par leurs équipiers et puis vous avez les favoris du Tour de France qui veulent éviter d'être dans les cassures, qui veulent éviter d'être dans les chutes et qui viennent également avec leurs équipiers tout simplement rouler en tête de peloton. Donc ça va très vite, ça frotte. Là, il y a cette panique, l'arrivée, certains comprennent que l'arrivée est au panneau des 3 km, les autres ne comprennent rien. Les directeurs sportifs doivent crier des ordres et des contre-ordres dans les oreillettes. Il y a une perte de concentration au niveau des coureurs parce que lorsqu'on a tout cela, on comprend pas trop. On s'interroge entre les coureurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, j'ai pas compris. Quoi? T'as dit quoi? Et là, d'un seul coup, ça fait boum par terre.
Ouais,
voilà.
Ouais, ouais. Alors, cette situation n'a évidemment pas été arrangée par les ordres et les contre-ordres de la direction de course et du jury des commissaires, car dans un premier temps, voyant que la ligne d'arrivée était bouchée et qu'on ne pouvait pas faire...
Enfin, ils voyaient rien, ils étaient dans la course.
Oui, mais on leur disait ce qui se passait. Donc, le président du jury des commissaires a décidé de déplacer l'arrivée 3 km avant la ligne initiale.
Et puis, le seul endroit qui était possible pour faire une arrivée, enfin, techniquement parlant, puisque aux 3 km, vous savez que le règlement, il dit quoi? Il dit qu'à partir du moment où vous franchissez le panneau des 3 derniers kilomètres, tout incident mécanique, crevaison, je sais pas, moi, bris de chaîne ou chute, fait que vous êtes classé dans le temps du groupe auquel vous appartenez. Mais encore faut-il savoir à quel groupe vous appartenez.
Oui, bien sûr.
Et donc, là, aux 3 km, vous avez une ligne et vous avez une sorte d'appareil qui
de
va
compteur.
Capter, de compteur, qui va capter les transpondeurs qui sont sur les vélos.
Pour établir un classement.
Pour établir, pour arriver à
savoir dans quelle position sont arrivés 190 personnes.
À quelle position est passé Pierre, Paul ou Jacques. Et à partir de ce moment-là, on pouvait faire un simulacre de classement. Sauf que cette ligne d'arrivée, elle était dans une chicane.
Oui,
en place, le panneau des 3 derniers kilomètres était dans une chicane.
Alors, donc, dans un premier temps, on décide de déplacer l'arrivée 3 km avant la ligne initiale. Et puis, finalement, on arrive à débloquer ce beau bus et son chauffeur qui était complètement abattu
à
son volant. On peut le comprendre. Et le président du jury des commissaires décide finalement de juger l'arrivée sur la ligne prévue.
Alors, je ne sais pas si c'est le président du jury ou si c'est Jean-François Péché qui est le directeur de l'épreuve. Car en fait, ils ne peuvent se fier... Pour prendre des décisions, ils ne peuvent se fier qu'aux informations qu'ils reçoivent de la ligne d'arrivée. Or, quand le car est débloqué, moi j'étais aux premières loges, vous savez, dans mon arbre là-haut, il est débloqué. En plus, il faut le faire débarrasser. La ligne d'arrivée, donc il faut lui ouvrir des barrières à 50 mètres de la ligne. Ouais. On arrive à le faire sortir et à ce moment on dit vous pouvez faire l'arrivée, sauf qu'on est à moins de 4 km de l'arrivée.
Ouais, ouais. Le chauffeur du bus, il a été quand même costaud parce qu'il fallait faire reculer le bus. Hein.
Oui, mais enfin, il a été très costaud d'aller s'emplâtrer là-dedans aussi, je pense. Hein,
c'est Luc. Son métier, c'est son métier, l'autre jour.
Voilà. Puis, heureusement qu'il s'est fait une action avec
un bus. A priori, ses collègues sont passés, donc lui, il s'est dit, ben moi, je passe aussi. Puis,
oui, mais il est passé en retard et l'arche était baissée.
L'arche était baissée. Alors, ordre contre ordre, évidemment, ça a provoqué la panique au sein du peloton. Cyril nous le disait, une énorme chute qui a mis à terre plusieurs des grands leaders, notamment Alberto Contador, dont on reparlera tout à l'heure, et qui a provoqué vous allez l'entendre, la colère terrible de Marc Madiot. On est habitué avec Marc, mais alors celle-là de colère, elle est quand même pas piquée des hannetons. Marc Madiot.
Qu'ils prennent la décision de mettre la ligne d'arrivée à 3 km, pas de problème. Mais 2 km ou 3 km plus loin, on nous dit pas on fait sur la ligne d'arrivée. C'est n'importe quoi. Le président du jury, nous les coureurs, nous les équipes, quand on fait des conneries, on nous met des amendes. Et ben lui, il en prend une grosse. Il doit en prendre une grosse. Mais c'est le président du jury qui est le patron de la course. C'est pas l'organisateur. L'organisateur, il dit il y a un souci sur la ligne d'arrivée. On l'a vu sur les écrans. Il y a pas de problème. On nous dit on fait l'arrivée à 3 km. Pas de problème non plus. On fait l'arrivée à 3 bornes. Mais 3 km plus loin, on nous dit finalement on est sur la ligne d'arrivée. C'est ridicule. Le président du jury, ridicule. Ridicule.
Voilà, ça c'est fait, ça c'est envoyé, c'est du Marc Madiot dans le texte, donc ridicule. Voilà le président du jury habillé. Alors il dédouane Jean-François Pécheux, directeur de la course. On va tout de même écouter la réaction de Jean-François Pécheux donc sur cette sortie plutôt virile de
musclé.
Marc Madiot.
Musclé. Marc Madiot est pas content parce que Voigny a pas gagné, mais les autres non plus. Je crois que c'est la décision qui a été prise, c'est la bonne. Quand vous êtes en course, vous savez pas ce qui se passe sur la ligne d'arrivée, vous savez pas s'il y a tout le matériel. Ce sont des décisions qu'il faut prendre. La sagesse était d'arriver sur la ligne d'arrivée. On peut pas arriver sur la ligne d'arrivée, on arrive à 3 km avant. La décision, elle est difficile à prendre, elle a été prise et on bouge plus de cette décision.
Voilà, Jean-François Pécheux qui explique sa position, on peut le comprendre. Alors, est-ce que selon vous, messieurs, cette situation d'urgence a-t-elle été bien gérée par l'organisation, que ce soit l'ASO ou également le jury des commissaires? Lucho, on va peut-être commencer par toi. Toi, pour l'instant, tu dédouanes le chauffeur de bus, mais,
non, mais
l'organisation.
Mais ça a quand même été bien géré par ASO, parce que bon, c'était quand même la panique générale à 12 km de l'arrivée, de voir ce bus complètement bloqué sur cette ligne d'arrivée. Et il ne pouvait pas faire autrement que, quand le bus a été dégagé, de prendre la décision de faire l'arrivée au bon endroit. Donc voilà, la décision, elle a été prise en bonne et due forme par l'organisation, par le président du jury, et je crois qu'il n'y a aucun reproche à leur faire. Après, c'est vrai que Marc n'était pas content, parce que, comme le disait Jean-François Péché tout à l'heure, Boigny a été pris dans les chutes, mais si Boigny était arrivé peut-être avec Marcel Kittel, il aurait peut-être fait sur le podium, voire gagné l'étape, peut-être que Marc se serait peut-être comporté autrement. Je pense qu'il va s'en vouloir un petit peu ce soir, Marc. Il était peut-être un petit peu trop violent dans ses propos par rapport au président du jury, mais c'est vrai que des décisions comme celle d'aujourd'hui à prendre, c'était pas facile non plus pour eux.
Ouais. Thierry, toi aussi, tu penses que tout ça a été bien géré? Ce n'est pas de l'amateurisme, c'est du vrai professionnalisme?
Je pense que, non, sans dire amateur, professionnel, mais c'était un cas d'urgence. Je pense qu'on l'a très bien réglé, puisque il y a un moment, le bus était complètement bloqué, il fallait trouver une solution. La solution, c'était 3 km. C'est vrai qu'en voyant les 3 km, il y avait un rétrécissement et une arrivée là-bas. C'était un peu compliqué, mais c'était la seule solution technique.
Alors on sait que les coureurs ont des oreillettes, Cyril. S'il n'y avait pas eu d'oreillettes là aujourd'hui, comment on aurait fait pour les faire des ordres et les contre-ordres? Comment on aurait pu faire?
Si ça avait été bien géré, il n'y aurait pas de polémique. Donc ça n'a pas été bien géré.
Mais non, le Cyril,
non, ça
n'a
pas été bien géré,
que...
puisque, un, il y a eu la panique dans le peloton, il y a eu des gamelles.
Non, la panique.
Mais c'est pas bien géré, puisqu'il y a accident, il y a blessé.
Non, mais l'accident,
c'est pas forcément...
Je vous ai pas coupé.
Parce que t'as parlé trop longtemps avant. avant l'incident.
Oh, bon, plus rien, alors.
Avant l'incident sur la ligne d'arrivée, il faut quand même noter qu'il y avait eu des chutes avant. Donc, les chutes qui sont arrivées après, c'est par la nervosité des coureurs, sachant qu'il y avait l'arrivée qui était toute proche. Voilà. Mais il y a eu des chutes avant, Cyril. Il y a eu des chutes avant.
Il y en avait trois.
Un accrochage avant, c'est tout.
Oui, mais il y en a eu trois avant. Il y a eu plus qu'un accrochage.
Laissez parler le druide, s'il vous plaît. Il est votre aîné, respectez son âge.
S'il vous plaît.
Le druide, à mon avis.
Non, mais attendez. Pour moi, une affaire, elle est bien gérée quand, un, il n'y a pas d'accident lié à la gestion du problème. Parce que des chutes, il y en a toujours. La grosse chute qui est, elle est liée au problème.
Bon. Non, absolument pas. Absolument pas.
La chute où est Boigny et tout ça?
Coureur qui s'écarte, qui vient percuter un deuxième.
En tête de peloton.
Non, c'est faux. Regarde les images.
Je sais pas si c'est pas Gert Stigman.
Toi, organisateur du Tour de France, tu aurais pris quoi comme décision?
Il fallait neutraliser.
Toi qui es costaud,
il fallait neutraliser.
Tu arrêtes
tout simplement.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit.
Messieurs, ne parlez pas tous en même temps.
Je fais l'arbitre.
Taisez-vous, monsieur Bourguignon.
À partir du moment où il y a des blessés, parce que quand on annonce l'arrivée est au panneau des 3 km, la dernière chute où il y a tout le monde, enfin tous les gros, elle est à combien? Elle est à 4 km de l'arrivée.
À 4 km, ils avaient déjà annoncé le kilomètre.
Non, mais personne n'avait rien compris, t'as bien entendu.
Mais il y en a personne n'avait compris.
Donc, à partir du moment où il y a un risque, on sait qu'on peut pas arriver sur une arrivée, ce qui est pire, c'est que si on avait voulu faire un classement aux 3 derniers kilomètres, il était peut-être pas valable.
Vous savez qu'en matière de course automobile, je sais pas si Jean-Luc Roy nous écoute ou pas, Patrick Tambay, lorsqu'il y a des incidents en course, on envoie une voiture de sécurité qui empêche le peloton d'aller trop vite. Est-ce que ça, c'est possible?
Oui, bien sûr que c'est possible, parce que vous avez une voiture de direction de course qui est devant le peloton. Mais à ce moment-là, la voiture, elle ralentit, vous mettez les drapeaux rouges et vous ralentissez le peloton.
Et là, Fred,
ça aurait été bien géré.
Et Fred, voilà. Il gueule parce que ça va pas assez vite.
Entre la décision qui a été prise de faire l'arrivée à 3 km et la deuxième décision qui a été prise de faire l'arrivée normalement, il s'est écoulé entre 5 et 10 minutes.
Mais c'était pas gérable.
Donc il fallait ralentir le peloton, voire l'arrêter pour le faire repartir.
Alors là, tu l'arrêtes et puis tu lances le peloton après avoir arrêté les gars pendant 10 minutes.
Ça évitait les chutes.
Non, les chutes font partie du paysage des premières étapes.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord, je l'ai même dit hier.
Exactement. Bon, t'as une chance inouïe.
Vous êtes en train de dire tout et son contraire. Faudrait être sérieux, quoi.
Ceci dit, tout le monde est dans le même temps. Les leaders sont à leur place.
Oui, il y en a un qui a
Le oui, mais bon, il aurait peut-être chuté quand même dans le final parce que le final était quand même assez sinueux et tortueux.
On peut
donc
pas refaire la course.
Voilà, c'est comme ça. Voilà.
Ouais. Bon, bah. on va accueillir Dominique pour voir de qui il est le plus proche, de Cyril Guimard, de Luc Leblanc ou Thierry Bourguignon. Bonsoir, Dominique.
Bonsoir, la fine équipe.
Hein. Salut. Bonsoir. Vous avez vu, ils sont remontés déjà, hein, les pépères, là. Hein.
Ouais, bah, c'est normal. Il y a des gamelles qui sont liées à cela et des blessés.
Cyril, tais-toi.
Mal géré.
Bon, laissons parler Dominique, s'il vous plaît.
Alors, je suis pas toujours d'accord avec Cyril Guimard, mais je dois avouer que ce soir, je dois me ranger, je dois me ranger derrière lui et derrière sa voiture Pacer. Parce que, et vous parlez entre spécialistes, vous avez tous votre conviction profonde. Moi, je vous parlais en tant que psychologue et surtout amateur de vélo qui a regardé l'étape. D'habitude, on se fait chier tous les ans à regarder des étapes insipides et on attend une arrivée improbable avec un peu de spectacle. Bon. Moi, j'ai écouté Cyril Guimard ces derniers jours qui nous annonçait quand même que l'arrivée sur Bastia, ça risquait d'être un peu chaud bouillant dans la manière où le tracé avait été fait, dans la manière où il y avait des giratoires, des épingles, etc.
Je regarde
l'étape et qu'est-ce que je vois ? Je vois que tout ce qu'avait annoncé Cyril Guimard, le druide, est arrivé. C'est-à-dire qu'on a vu une suite de gamelles.
Oh, c'est pas vrai. Non, mais là, je te coupe. Oui, je te coupe, c'est pas vrai. Je te coupe, c'est pas vrai.
Est-ce que je peux finir ? Je rejoins Cyril Guimard quand il dit que lorsque les coureurs ont entendu que tout avait changé. Moi, j'ai été coureur et je sais qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de changer tous ses pronostics, on essaye de changer tous ses plans, on essaye de prendre d'autres trajectoires pour remonter plus vite sur le peloton parce qu'on ne sait pas exactement comment va être située l'arrivée 3 km plus tôt. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des risques pour être aux avant-postes.
Ah, mais c'est évident.
On provoque des chutes. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a de l'énervement dans le peloton. On voit des coureurs qui commencent à prendre des bordures et qui se payent les balustrades de sécurité. Je suis désolé, je rejoins totalement l'avis de Cyril Guimard. Il y a eu de l'amateurisme au départ, enfin plutôt à l'arrivée avec l'histoire du bus, d'avoir fait redescendre le portique avant que le bus arrive, c'était une forme d'amateurisme. Il y a eu de l'amateurisme dans les changements de stratégie 3 km avant, puis on revient en arrière. Il y a eu de l'amateurisme peut-être dans l'organisation de toute cette arrivée sur Bastia. Moi je me mets aujourd'hui à la place des coureurs qui sont tombés, qui sont blessés, ouais. Des gars qui se sont préparés pratiquement toute l'année pour arriver sur cette étape et surtout pour arriver à venir défendre leur chance sur le tour avec toutes les conditions que cela doit représenter, conditions financières, conditions d'image, etc. Et je me dis, ben merde, c'est une course d'amateur à laquelle je suis venu participer. Vous avez beau être des spécialistes, moi en tant que spectateur, j'ai vu une course d'amateur et une arrivée d'amateur. Je suis désolé de vous le dire, moi c'est ce que j'ai vu et c'est pas ce que j'entends en dehors de ce que dit Cyril Guimard.
Très bien, voilà une position tranchée. Merci Dominique. Cyril, voilà, tu.
Non, je le remercie.
Voilà, on remercie Dominique.
Il a pas écouté hier soir
cette belle analyse. Messieurs, on va s'interrompre là. On va revenir dans quelques instants. On va parler de Contador parce que lui a été justement victime de cette chute. Il souffre de l'épaule.
RMC, 23h minuit. Toute une journée en une heure. C'est le meilleur du tour. Christophe Cessieux.
Alors, on est évidemment, on a beaucoup parlé de cette arrivée, arrivée mouvementée qui a quand même causé pas mal de soucis et quelques bobos à déplorer. On a vu Peter Sagan dont le cuissard a été complètement arraché, on ne sait pas dans quel état il est. On a vu Nasser Bouhanni retardé, mais a priori il n'a pas été pris dans la chute. On a vu également Mark Cavendish et André Greipel qui n'ont pas réussi à rester au contact de l'avant-garde du peloton pour disputer la victoire finale. Et puis il y a des coureurs qui sont blessés, c'est le cas de Tony Martin qui est semble-t-il au bord de l'abandon, et puis un leader a également été pris dans la chute et pas n'importe lequel, Alberto Contador qui est arrivé retardé et en plus blessé à l'épaule droite. Alberto Contador qui était très nerveux tout à l'heure à l'issue de cette étape, il l'a dit à Georges Quirino. Dans quel état se trouve-t-il ? Est-ce que c'est grave, docteur ? La réponse d'Alberto Contador.
Ça a été une journée très compliquée, mais le tour c'est comme ça. Des fois tu peux éviter les chutes et des fois non, c'est une loterie. Cette fois-ci c'est tombé sur moi, je n'ai rien de grave je pense, pas de fracture, mais je suis touché au genou, à l'épaule droite, au coude gauche. Il va falloir mettre de la glace, j'espère que c'est superficiel et que je vais pouvoir récupérer. On va essayer de faire au mieux avec l'équipe pour ne pas avoir de soucis et j'espère que je n'aurai pas de problème sur le vélo.
Voilà, Alberto Contador, co-favori de ce Tour de France au même titre que Chris Froome, déjà blessé à l'issue de la première étape, l'épaule, le genou, ça fait quand même lourd, même s'il ne dit qu'il ne souffre pas de fracture. La nuit portera conseil, Cyril, mais au lendemain d'une chute comme ça, quand même, on ressent la gamelle, hein, et ça peut durer plusieurs jours.
Oui, je peux confirmer. oui, non, mais bon, il y a chute et chute. Bon, est-ce que c'est une chute où il a tapé ou il a uniquement glissé?
Bon, il avait l'air de souffrir de l'épaule. Hein, c'est ce que nous disait Georges Quirino
oui, qui a réalisé l'interview. Bon, attends, on va attendre de voir s'il a vraiment mal parce que vous savez, quand on est dans la position de Contador, il est peut-être utile. Intéressant, important de montrer qu'on a peut-être une petite faiblesse quelque part. Hein. Moi, exactement. Je me méfie toujours par expérience, parce que j'ai quand même joué dans la pièce. Non, après, il faut voir s'il y a véritablement quelque chose. S'il est vraiment blessé, on le saura demain. Hein. Vous savez, on passe à 1100 mètres demain.
Hein. On le verra.
Et puis, il y a une descente très technique, très sinueuse. Donc, on le verra. Donc, moi, attendons de voir sur tous les coureurs qui sont tombés. Il y en a une dizaine qui sont vraiment touchés. Mais le reste, bon, ça fait partie des chutes, on va dire, banales et insignifiantes. Donc, attendons avant de juger.
Attendons avant de juger. Malgré tout, on ne sort pas indemne d'une telle gamelle. Thierry,
non, mais c'est vrai que je pense qu'il faut voir déjà l'état des blessures, parce que si c'est simplement du vernis, bon, c'est toujours embêtant parce qu'on dort mal, mais a priori c'est pas gros des gros arrachements qu'il a eu de peau. Donc bon, après on verra bien. Il y a un ostéo, il y a les docteurs, il y a tout ce qu'il faut sur le tour. On repart assez souvent plein de hargnes, et puis dans 48 heures, peut-être un peu plus, y a peut-être des petites douleurs qui réapparaissent, mais je pense pas que ce soit le problème pour Contador. Je rejoins Cyril pour dire que on est quand même dans la plus grande pièce du monde et que les acteurs sont là pour montrer ou cacher leur faiblesse et leur.
Ouais, enfin là, il a pas fait exprès de se gameler quand
mais
même.
Non, mais il a pas fait, mais il profite de la chose.
Il s'en tombait. Il y en a 25 qui tombent. Faut savoir que sur une chute où il y a 25, il y en a quand même. Il y a les 3 ou 4 premiers qui cognent.
Et après les autres.
Et derrière, les autres ont un temps de freinage, ils rentrent dans la chute et ils vont accompagner la chute. Mais ils sont pas tous blessés au point de pas prendre le départ, voire de ne pas repartir. Il y a vraiment les premiers qui tapent. Hein.
La chance qu'a Contador dans son malheur, c'est que c'est le début du tour. Donc demain, c'est pas une grosse étape de montagne, après-demain non plus. Donc il a le temps de se refaire une petite santé. Bon, il y aura le contre-la-montre par équipe à Nice. Donc ça arrive vite. Mais bon,
c'est le leader de son équipe. Non,
D'ici là, je pense qu'il aura le temps de récupérer. Et bon, dans son malheur, c'est quand même pas mal.
Ne dramatisons pas ce soir sur le cas Contador.
On ne connaît pas l'état de ses blessures en plus. Alors, c'est pour ça.
On peut pas trop s'avancer dans le.
Il n'avait pas l'air trop fâché.
Moi, je pense pas. Oui, voilà. Parce que d'ailleurs, même lui, il le dit dans l'interview.
Énervé, oui.
Dans l'interview, il dit ça fait partie du jeu. On a un peu de chance, on n'a pas. Et puis, il dit la glace suffira. Donc, voilà.
Ce qui est terrible quand même dans cette épreuve, c'est qu'on se prépare pendant des mois, on arrive au pic de forme juste avant le départ de ce tour, et dès la première étape, tout peut être mis par terre en l'espace d'une
c'est le jeu, pour être champion,
pour gagner le tour, il faut avoir la condition et la chance.
Voilà. Aussi, il y en a même qui avait le maillot jusqu'au dernier jour, qui l'ont perdu pour 8 secondes.
Oui, non, mais c'est encore pas ça. Mais c'est... pleurer le druide.
Mais c'est encore pire. Gentil, mais c'est encore pire comme truc.
Oui, c'est encore pire le dernier jour.
Eh oui, moi j'aime autant m'arrêter le premier jour que perdre le maillot le dernier. Voilà, c'est tout.
Donc pas de souci pour vous. Contador va pouvoir reprendre tranquillement la route
et la bête est malade.
Il sera peut-être beaucoup plus attentif dans les prochaines étapes.
C'est pas la première fois, Cyril, qu'il est victime d'une chute dès la première étape. Je crois qu'il y a
deux ans, il avait qui arrivait au Mont des Alouettes, mais là il était absent. Il n'était pas dans la course.
L'an dernier ?
Non, il y a 2011. C'était en 2011.
Il s'était fait siffler à la présentation des équipes. Il était dans une situation psychologique un peu difficile. Pas de la faute des autres, mais de la sienne. Donc, il n'était pas dans la course. Je crois savoir qu'il n'avait pas envie de faire le tour. En plus, on lui avait un petit peu imposé. Donc là, il traînait un petit peu derrière. Il y avait un spectateur qui était un petit peu trop près sur le bord de la route. Et puis, ça avait provoqué un accrochage. dimanche, où il y avait donc trois coureurs qui tombaient, une cassure, il avait perdu. Mais en plus, il s'était même pas battu d'ailleurs dans la montée du Mont des Alouettes. Il roulait même pas en tête pour rentrer. Il n'en avait rien à faire cette année-là du Tour.
Qu'est-ce que vous en dites d'ailleurs? Qu'est-ce que vous en pensez de Contador, de son état de forme, de ses velléités de victoire? Est-ce que vous le voyez? Je sais que dans les paris, vous n'avez pas vraiment mis dans les vainqueurs du Tour. Ou deuxième ou troisième. Toi, tu as annoncé.
Si, moi, j'ai annoncé, mais bon.
Et tu gardes toujours.
Oui, soir, parce qu'un sanglier blessé est un sanglier dangereux.
Oh, ça n'a jamais été un sanglier quand même.
Ah, bah,
faire le bœuf, hein, vous savez. Hein.
Oui. Oh, elle est bonne. Elle est bonne.
Bon,
bœuf espagnol.
Le bœuf espagnol, mais qu'on mange.
Bah, moi, concernant Contador, vous allez dire que je l'aime pas, ce qui est en partie vrai, parce que j'aime pas les gens qui mentent.
Tu t'aimes pas,
Cyril.
Tu t'aimes pas.
Monsieur Bourguignon, je vous en prie, je suis en paix de ma conscience.
C'est vrai en plus, parce que tout à l'heure il nous disait j'ai joué dans la pièce, je sais très bien qu'on raconte des bêtises.
Non, j'ai joué dans la pièce qu'ayant été longtemps directeur sportif, j'ai vu le jeu que jouaient les coureurs.
Oh.
Moi, quand j'ai eu mal au genou, j'ai abandonné le Tour à 48 heures de l'arrivée.
Cyril, il y a un moment, t'as pas joué la comédie.
Non, mais si vous regardez bien les performances sur le Tour de Contador depuis deux ans, il n'influe pas sur la course. Que ce soit l'an dernier ou l'année d'avant, il y a même des tours qu'il a pas fait, mais pas eu d'influence sur le Tour depuis qu'il a été pris au contrôle.
Très bien. Mais attends, il s'est passé du temps.
On verra en tout cas ce que nous dit Alberto Contador dans les heures qui viennent.
Les paris maintenant.
Ça va. L'autre il fait son malin
C'est Michael pour une fois. Tout le monde est tombé.
Tiens, Michael nous appelle des Landes. Il voulait intervenir justement à propos d'Alberto Contador. Salut Michael.
Ouais, salut.
Bon, alors,
ça va,
impeccable.
Ça va,
et toi?
Ouais, impeccable. Ouais, vous, ça va, du moment que c'est pas un Français qui est tombé, tout va bien, quoi.
Si, Boigny est tombé.
Il
y a plusieurs Français qui ont chuté.
Ouais, c'est vrai.
Boigny est pris dans la chute, mais il est pas tombé, il est arrêté, c'est tout.
Non, il a pas été,
il a été bloqué.
Il y avait plusieurs coureurs de la Française qui étaient dedans.
Non, mais on peut pas se satisfaire de ça.
Bon, Michael, que veux-tu nous dire?
Quand je vois votre humour, là, sur Contador, je me dis que ouais, quoi, enfin, que vous êtes finalement pas trop déçu qu'il soit tombé, quoi.
Non.
Et moi, je le donne gagnant. Je le donne gagnant du Tour.
Alors, j'ai mis dans les trois premiers du Tour. J'ai pas envie qu'il tombe, moi.
Ah non, personne a envie qu'il se fasse mal. Sinon, si on assiste à un cavalier seul de Chris Froome, là, on va sérieusement s'ennuyer pendant le Tour. Donc, nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'il ne soit pas blessé et qu'il soit en état de disputer la victoire.
Ce que l'on dit, ou moi, ce que je dis, c'est que pour l'instant, ne dramatisons pas les conséquences de la chute en ce qui concerne Contador, comme d'autres d'ailleurs, c'est tout, mais on n'est pas encore dans les Pyrénées, hein.
Si je comprends bien, dopé ou pas, vous préférez avoir du spectacle?
On n'a pas parlé de ça là. On parle de la chute de Contador et on a dit que Contador,
Non, j'ai dit que depuis son contrôle, il n'a jamais influé sur le Tour de France.
C'est vrai. Comme tous,
Pas tous, non. Pas tous. Il y en a qui arrivent à marcher après encore.
Ouais.
En principe, pas trop.
Ouais, voilà. Donc, si je comprends bien, si je suis ton raisonnement, les gars, ils marchent aussi fort après. Ils sont
encore
sodopés, alors.
Non, ceux qui se font prendre, ça permet à d'autres coureurs de pas se faire prendre et de retirer un peu ce qu'ils mettaient. Donc, c'est le niveau qui baisse, hein.
Bon, en tous les cas, on est obligé de s'interrompre. Merci en tous les cas à Michael. En tous les cas, il est remonté, Michael, hein. Vous l'avez énervé, là, sur Contador. On touche pas à Contador. Mais nous, on voudrait qu'il soit en forme, Contador. On n'a pas envie qu'il soit blessé. Loin de là, cette idée.
RMC, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du Tour.
Je vous retrouve demain avec toute l'équipe à partir de 16h, juste après le Grand Prix de Formule 1 demain.